Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Paul à Troas dans Actes chapitre 20 et au verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Nous connaissons l'apôtre Paul et le ministère qu'il a eu, notamment à travers ses voyages missionnaires, puisqu'il en a fait plusieurs. Nous sommes ici dans le 3e voyage missionnaire qu'il a fait. Il partait toujours de l'église d'Antioche, c'était son église de base, si on peut dire. C'était de là qu'il montait ses équipes et qu'il partait en mission. Et il est passé par l'église, par la ville d'Éphèse, juste avant d'arriver à Troas. Et dans cette ville d'Éphèse, il y a eu 3 événements importants qui se sont passés. Tout d'abord, il a rencontré des disciples qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus et qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Alors, il a prié pour eux pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et ensuite, il les a baptisés d'eau pour qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Ensuite, il a enseigné pendant 2 ans dans une école de Tyrannus. Il a enseigné la parole de Dieu de sorte que toute l'Asie a entendu parler du Seigneur. Et enfin, il y a eu l'événement des 7 fils de Sceva. Donc, c'était des Juifs qui priaient pour un démoniaque et le démoniaque les a maîtrisés. Alors, à ce moment-là, on a vu que c'est seulement dans le nom de Jésus, mais en étant en communion avec Jésus, que l'on peut avoir la victoire sur ce type de démon. Et nous arrivons maintenant à Troas, ici nous sommes au chapitre 20 et au verset 6. Et dans cette ville, il faut se rappeler que durant son 2e voyage, Paul avait déjà eu la vision d'un Macédonien qui lui avait dit « Viens et secours-nous ». Et c'est là qu'il était allé en Europe. Donc, il repasse dans cette ville de Troas. Il va rester à peu près 1 semaine dans cette ville. C'était à l'époque de la Pâque, puisqu'il est question des pains sans levain. Après les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque des Juifs, il va se trouver à Troas. Et là, j'aimerais voir 4 éléments que l'on trouve dans ce passage. Le premier, c'est d'abord l'importance du jour du Seigneur. On l'appelle ici le premier jour de la semaine, au verset 7. Pour nous, c'est le dimanche. L'importance du dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Les premiers chrétiens, en fait, se réunissaient le premier jour de la semaine, le dimanche. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, voilà, c'était la coutume, c'était l'habitude dès les premiers temps de l'Église, le premier jour de la semaine, de mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc le premier jour de la semaine à l'époque était un jour spécial. C'était un jour réservé pour un culte à Dieu. Alors bien sûr c'était un jour aussi qui était travaillé. Il faut remonter à l'époque du 1er siècle. En tout cas pour les Juifs c'était le samedi qui était le jour du repos. Et donc, le samedi étant le 7e jour, le premier jour était le dimanche. Et pour les chrétiens, ils ont choisi de se réunir le dimanche. Est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens ont choisi de se réunir le dimanche plutôt que le lundi ou le mardi? Parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus. Il est ressuscité un dimanche. Et pour honorer le Seigneur Jésus, ils ont décidé de se réunir le dimanche, même si ce jour était un jour de travail. Ce qui signifie que les premiers chrétiens ne se réunissaient pas le dimanche matin comme nous le faisons habituellement, mais ils se réunissaient après leur journée de travail, comme c'est le cas ici à Troas. C'était donc le soir, c'était dans les maisons, puisqu'il n'y avait pas encore de bâtiment d'église, donc les églises étaient relativement restreintes, il y avait peut-être 30 à 50 personnes dans les maisons qui se réunissaient, c'était déjà une église, mais on ne pouvait pas accueillir trop de monde non plus, parce que les locaux étaient petits. Et donc, après la journée de travail, ils commençaient par une agape, un repas fraternel, où on prenait des nouvelles des uns et des autres. Et puis, dans ce repas fraternel, ils partageaient le pain et le vin, et puis il y avait le culte, l'enseignement, la parole de Dieu, les louanges. Tout cela se faisait dans les maisons. Ce n'est seulement qu'en 321 après Jésus-Christ que le dimanche est devenu le jour du repos, puisque c'est Constantin qui l'a imposé à tout l'Empire romain. Mais au moins pendant 3 siècles, donc, les chrétiens se réunissaient le soir, et non pas dans la journée ou le matin, comme nous le faisons aujourd'hui, puisque c'était un jour de travail. Donc aujourd'hui, c'est plus facile. Le dimanche étant un jour férié, dans la plupart des cas, eh bien, nous pouvons nous réunir le matin. Alors l'importance du dimanche, elle ressort de ce texte, comme celui que nous avons lu, parce que les premiers chrétiens accordaient une place importante au culte. Pourquoi ? Parce que le culte, c'est déjà un rendez-vous avec Dieu. Quand nous venons, par exemple, le dimanche matin, eh bien, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Moi, j'ai un agenda électronique, mais tous mes dimanches matins, c'est réservé pour le Seigneur. Et le mardi soir, ah, il n'y a pas beaucoup de amen. Le mardi soir aussi, c'est un rendez-vous avec Dieu. Eh oui. Tous mes rendez-vous avec Dieu sont déjà calés. Alors vous allez dire, mais oui, c'est normal, vous êtes pasteur. Mais même avant d'être pasteur, même si je n'étais pas pasteur, le dimanche, c'est un rendez-vous avec Dieu. Que vous soyez pasteur ou pas. C'est un rendez-vous avec Dieu qu'il faut caler, qu'il faut... j'allais dire que tous les autres événements vont venir autour, mais ce rendez-vous-là, il est incontournable. C'est important. Et ça, les premiers chrétiens l'avaient compris. Et voyez, c'était peut-être plus difficile pour eux, parce que imaginez qu'on ait nos cultes le lundi soir, par exemple. Premier jour pour nous, le premier jour de la semaine, ce serait le lundi soir pour eux, l'équivalent. Ils se réunissaient comme le lundi soir, donc ils avaient toute leur journée de travail, et le lundi soir, ils se réunissaient encore. Et ils avaient pris cette habitude avec sérieux de le faire. Mais pourquoi ? Pour honorer Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est dans cet état d'esprit que nous venons dans la présence de Dieu. Deutéronome 10, 20. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui. » Est-ce que l'on peut dire qu'on est vraiment attaché au Seigneur ? Si on est vraiment attaché au Seigneur, alors tous les rendez-vous, on les cale et ils sont importants et on ne manque pas un culte parce que c'est important d'être dans la présence de Dieu. On est attaché à venir dans sa présence. Tu ne jureras point et tu jureras par son nom. Alors, on doit arriver à un niveau où on réalise que le culte, c'est vraiment un rendez-vous avec Dieu. Ce n'est pas seulement des temps de chant, la prédication, c'est très bien, mais c'est d'abord un rendez-vous spirituel avec notre Dieu pour adorer Jésus, pour bénir le Seigneur, pour être au contact de sa présence. C'est même la volonté de Dieu. Et si, j'allais dire, pour vous, ça n'a pas d'importance, manquer un culte, finalement, ce n'est pas si important, ce n'est pas si grave, ben c'est que vous n'avez pas encore saisi l'importance spirituelle du culte. Parce que manquer un culte, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas manquer, sauf si on est malade, si on ne peut pas vraiment, si on a vraiment une raison valable, mais pas pour une raison futile. Une raison, on ne devrait pas manquer un culte comme ça. Les chrétiens réalisaient que chaque culte, c'est vraiment important d'être fidèle, d'être présent pour être au contact de la présence de Dieu. Alors, j'ai remarqué il est dit qu'ils étaient réunis, donc c'est au verset 7 toujours. « Nous étions réunis », verset 7, et verset 8, « Nous étions rassemblés ». « Nous étions réunis, nous étions rassemblés ». C'est deux fois la même chose, parce qu'être réunis, être rassemblés, c'est pareil. Mais c'est pour montrer sur l'insistance de la nécessité d'être ensemble dans le même lieu. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que, avec le développement des technologies, il y a de plus en plus d'isolement, de gens qui ne se réunissent plus finalement et qui préfèrent rester à la maison pour bénéficier d'un culte. Mais en tout cas, quand on lit la parole de Dieu, à moins d'avoir vraiment un impératif, il est important de se réunir et de se rassembler sous le regard du Seigneur. C'est comme ça que faisaient les premiers chrétiens. Et je crois que l'Église restera dans cette dimension de rassemblement. De rassemblement pas simplement connecté, si vous voulez, mais de rassemblement physique, d'être réunis sous le regard du Seigneur. Jésus l'a dit lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Pour bâtir son Église, il va prendre des pierres vivantes, il va les rassembler et il va former le corps de Christ. C'est ce que nous faisons ce matin. Chaque personne a sa place dans l'édifice. Et j'ai remarqué qu'il y a une bénédiction quand nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Psaume 133, verset 1. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir autrement. Il y a dans le rassemblement la grâce de Dieu. Il y a des temps spirituels. Psaume 133, connaissez ce psaume? Il est court, mais il parle vraiment de la communion. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs, on peut rajouter, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah, il y a une réelle bénédiction quand on est dans la présence de Dieu. C'est une bénédiction spirituelle. Et Dieu l'a voulu comme cela, de répandre son onction, sa bénédiction, à qui il est doux, à qui il est bon, pour des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. Donc se priver d'un culte, manquer un culte comme ça, ou se dire « Oh, je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas très bien », souvent on me dit ça, mais je ne vais pas très bien, alors je ne viens pas au culte. Alors que c'est le contraire. Quand on ne va pas très bien, venons dans la présence de Dieu. Et là, on est fortifié, on est renouvelé, on est sous l'onction du Seigneur, et vous allez voir que la fatigue, elle va partir, elle va disparaître, et le Seigneur va vous renouveler. Mais par contre, à l'inverse, en manquant un culte, si déjà on est un peu faible, on est encore plus affaibli. Parce que dans le culte, il y a des forces qui sont régénérées. On est fortifié, on est renouvelé spirituellement. Mais quand on s'abstient du culte, alors à ce moment-là, on est affaibli spirituellement. Un autre élément, c'est la communion fraternelle. Je voulais lire 1 Jean chapitre 1, verset 6, pour vous montrer la nécessité d'être en communion avec des frères et des sœurs. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec le Seigneur, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors regardez bien ce verset qui est important parce qu'il y a deux niveaux de communion. Je ne sais pas si vous l'avez saisi en le lisant, mais il y a deux niveaux de communion qui sont différents. Le premier niveau de communion, il est vertical. C'est-à-dire, nous devons d'abord être en communion avec Dieu. Si vous n'avez pas la communion avec Dieu, vous n'aurez pas la communion horizontale. La communion verticale, c'est la première. Être en communion avec Dieu, ça veut dire développer une relation avec le Seigneur Jésus, qui nous l'a bien expliqué, quand il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Si Jésus est le cep, nous, nous sommes les sarments, ça veut dire que nous sommes greffés sur Jésus et que nous tirons notre vie de Jésus. Elle vient de là, la communion, elle vient d'une relation profonde avec Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas la communion avec Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie de Christ en vous, et vous n'aurez pas la communion avec les autres. Donc tout commence par le cep, les sarments, être en communion avec Christ. Et celui qui est en communion avec Jésus, le texte dit, alors il ne marche plus dans les ténèbres. Il y a une séparation. Comprenez bien séparation, ça veut dire on est quand même dans le monde, il faut garder des contacts avec les gens, mais on n'est plus dans l'esprit du monde, parce que la Bible, elle parle de l'esprit du monde. Elle dit qu'il faut être dans le monde, mais ne pas avoir l'esprit du monde. Vous n'avez plus l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est vivre pour soi-même, profiter de la vie sans penser au lendemain, ne pas s'intéresser aux choses de Dieu. Voilà, c'est tout ce que le monde et sa folie connaît, que nous connaissions avant Jésus. Mais si le chrétien continue à marcher selon le monde et par là même essayer d'entrer en communion avec Dieu, il n'y aura pas d'issue. Chaque chrétien doit veiller sur sa vie. Et je dirais que nous devons arriver à un niveau où maintenant nous prions tous les jours, où nous présentons tous les jours au Seigneur la journée qui va venir entre ses mains. Parce que ça, c'est quelque chose de non négociable. Si pour vous, ce n'est pas de problème de ne pas faire de culte personnel, de partir comme ça au travail sans vous préparer, sans présenter la journée au Seigneur, sans prier, sans ne serait-ce que lire un verset, un moment dans la parole de Dieu, eh bien, c'est que vous n'entretenez pas la communion avec le Seigneur et c'est que petit à petit, vous ne pourrez pas ni être en communion avec Dieu ni avec les autres. Donc le premier niveau de communion, il est incontournable, il est non négociable, c'est la communion avec Dieu. À partir de là, si vous êtes en communion avec Dieu, il y a un autre niveau de communion, c'est avec les frères et sœurs. Et là, il y a encore une condition dans notre texte, parce que vous avez remarqué ce petit mot « si ». Mais si nous marchons dans la lumière, et ça c'est la condition. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire si nous ne marchons pas dans la lumière, ce n'est pas possible. Mais si nous marchons dans la lumière, il y a un autre niveau de communion, parce que Jean fait référence à des chrétiens qui, tout en se disant chrétiens, ne marchent pas vraiment dans les choses de Dieu, pas de communion possible. Vous avez l'exemple d'Alexandre le forgeron, par exemple, dans la Bible, Paul dit qu'il m'a fait beaucoup de mal, c'était un chrétien. Il était chrétien et malheureusement, il a mal tourné. Et à ce moment-là, Paul n'était plus en communion avec lui. Il n'était pas en communion avec lui. Le problème de ceux qui se disent chrétiens et qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur, ça a toujours existé, depuis le début de l'histoire de l'Église, ça existe. Donc, ce texte de Jean dit que la communion, elle a un prix à payer, elle a des exigences. Et la première exigence, d'abord une communion avec Dieu, si on ne l'a pas, ce n'est pas possible. Ensuite, marcher dans la vérité, dans la lumière. Et on ne pourra être en communion qu'avec des personnes qui sont aussi en communion avec Dieu et qui marchent dans la vérité et dans la lumière. La communion, elle est là. Une autre type de communion, en fait, n'est pas spirituelle et n'est pas selon la pensée de Dieu, parce que vous ne pourrez pas être en communion réelle, je parle d'une vraie communion spirituelle, avec quelqu'un qui n'est pas aussi dans le Seigneur et qui ne marche pas dans la vérité. Et si vous entrez en communion avec cette personne-là, eh bien forcément, il y aura une influence spirituelle sur votre vie qui va affecter votre relation avec Dieu. Donc, vous ne pourrez pas être en communion réelle, si vous voulez garder la communion avec Dieu, j'entends. Donc, la question est là, deux niveaux de communion, deux niveaux à entretenir. Alors, c'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, de se préparer avant de venir au culte, d'avoir un temps avec le Seigneur. Vous avez remarqué, on n'a pas besoin de se préparer, par exemple, pour aller au restaurant, pour aller à un spectacle, pour aller au cinéma, ou toutes ces choses-là, il n'y a pas besoin de préparation. Parce qu'on est spectateur, on profite. Mais quand on vient au culte, on n'est pas spectateur. On est participant. Et donc, quand on vient au culte, on vient pour adorer le Seigneur et entrer, prendre sa place dans la louange, dans l'adoration. C'est pour ça qu'on doit préparer notre âme à élever le Seigneur et ne pas venir, tiens, comme si on allait à un spectacle, comme si on allait pour écouter, pour recevoir, mais on vient pour apporter et on se prépare. On se prépare. De même qu'on se prépare quand on se coiffe, on s'habille, on fait tout pour être le mieux présentable possible pour venir au culte, mais ça, c'est l'extérieur. Mais c'est très important de préparer son cœur. Et voyez, on le fait facilement pour l'extérieur, mais combien le font pour l'intérieur? Combien prennent le temps de prier? Combien prennent le temps de se préparer pour vivre un temps fort avec le Seigneur? Eh bien, souvent, c'est négligé, on n'a pas le temps, on néglige ces choses, et finalement, on passe à côté d'un vrai culte, parce qu'on est spectateur et on n'est pas participant. Or, dans la parole de Dieu, un culte, on n'est jamais spectateur, on est participant et on prend notre place dans la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on doit arriver au culte? D'abord avec foi, en s'attendant à l'action de Dieu, parce qu'on croit que Dieu est au milieu de nous. Déjà, on doit croire que le Seigneur peut tout faire. Ça doit être là dans notre cœur. Si déjà on vient au culte en doutant de tout, en doutant que ça va, finalement, ça va mal tourner, tous mes projets vont s'effondrer, on doute de tout, on doute. Bien, déjà, on anéantit les bénédictions dans notre vie. Donc déjà, venons au culte avec foi, en nous attendant à la grâce de Dieu, ayant un cœur ouvert. Ensuite, venons avec enthousiasme. Psaume 122, verset 1. Vous connaissez sûrement ce psaume. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons au Stadium de Toulouse ». Ah non, c'est pas ça. Non, mais des fois, il y a plus de joie pour aller à un spectacle, à un match de foot. Ah, on est dans la joie, on explose de bonheur. Mais alors, pour venir dans la présence de Dieu, c'est on traîne les pieds. Alors que ça devrait être le contraire. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et moi, je dirais, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'église de Toulouse-Ouest ». Ce n'est pas dans la Bible, mais je le rajoute. « Allons à l'église de Toulouse-Ouest ». C'est la maison de l'Éternel. Et on devrait venir avec enthousiasme. Et c'est pourquoi déjà, dès le premier chant, dès qu'on commence à monter nos louanges vers le Seigneur, il devrait y avoir la ferveur, la joie. Je suis dans la joie quand on me dit... Alors, avant de venir au culte dimanche prochain, mettez-vous ce verset là, avant de partir sur votre, dans votre voiture ou dans votre Bible. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et remplissez-vous de cet esprit de foi, d'enthousiasme. Venons aussi avec humilité pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Étant à l'écoute, il y aura des dons spirituels, il y aura la parole de Dieu, il y aura des échanges, des exhortations des uns et des autres. Le Seigneur utilise tous ses moyens pour nous parler, pour nous façonner. Le deuxième élément dans ce passage, c'est le sommeil spirituel qui a gagné Eutychus. Eutychus qui était assis au bord de la fenêtre, un jeune qui s'était un petit peu mis à l'écart, mais si on raisonne un peu, on se dit que ce n'est pas un très bon endroit pour s'asseoir. C'est un peu risqué, s'asseoir sur la fenêtre. Vous avez quand même un certain risque. Mais j'ai remarqué que quand on s'écarte un peu des choses de Dieu, quand on s'éloigne du groupe, qu'on fait nos propres choix, souvent ce sont des mauvais choix. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, on fera toujours des mauvais choix. Et vous allez vous asseoir à la mauvaise place. Vous allez vous asseoir à la mauvaise place parce que, fatalement, vous suivez vos propres intuitions, vos propres choix humains, et vous n'avez pas remis vos choix entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on appelle les choix charnels, les choix humains, les choix terrestres, les choses de la terre. Et fatalement, vous allez vous asseoir au mauvais endroit. Et fatalement, vous allez prendre vos distances avec les autres chrétiens. Parce que si ce jeune avait eu plus de proximité avec les chrétiens, s'il s'était assis à côté d'un autre chrétien, par exemple, ben, il ne serait jamais tombé de la fenêtre. Mais c'est parce qu'il avait pris ses distances. Proverbe 18, verset 1. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Voilà le problème. Il cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et Eutychus est victime du sommeil spirituel, c'est-à-dire il ne voit pas le sommeil venir dans sa vie. Ça vient doucement et sûrement, mais comment ça se passe? Eh bien, petit à petit, au lieu de prier tous les jours, vous priez un jour sur deux. Commencez à prendre un peu des distances, voire deux fois par semaine. Et puis, au lieu de venir tous les dimanches, on vient une fois sur deux ou sur trois. Petit à petit, on prend des distances. Et ça, c'est le sommeil spirituel qui commence déjà son œuvre de destruction. Ça commence comme ça, petit à petit. Et le problème, c'est que vous ne le voyez pas venir. Ça se fait tellement tranquillement. Le sommeil arrive. Si vous voyez que vous êtes en danger, vous réagiriez, mais vous ne voyez pas le danger. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous endormir. Comme Eutychus, il est en train de s'endormir. Personne ne s'en rend compte. Et puis Eutychus s'endort profondément. Et là, quand vous êtes endormi profondément, ça veut dire que vous n'avez plus de réaction. Imaginez que vous dormez profondément chez vous. Il survient, par exemple, le feu, quelque chose. Ben, vous dormez profondément. Il faut vraiment vous réveiller vite. Mais si vous ne vous réveillez pas, vous allez mourir dans le feu, dans les flammes. Ça va prendre des proportions, ça sera trop tard. Le danger est maximal quand on dort profondément, surtout si on a vraiment un sommeil très, très fort, très, très profond. Et là, il n'y a rien qui vous réveille, vous êtes vraiment endormi. C'est ce qui est arrivé à Eutychus. Il s'est endormi, et on a quelques exemples dans la parole de Dieu de personnes qui se sont endormies. Je pense à Samson, qui était pourtant un homme choisi par Dieu, qui avait fait des choses extraordinaires, qui avait une force remarquable parce qu'il avait reçu de Dieu une onction pour vaincre les Philistins. Mais à un moment donné, avec une femme qui s'appelait Delila, qui était d'ailleurs du peuple des Philistins, un ennemi du peuple de Dieu, déjà un mauvais choix, bon, il avait fait un mauvais choix en allant avec cette femme. Et les Philistins ont demandé à Delila de toucher le cœur de son mari pour qu'il lui avoue d'où venait cette force. « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Alors, à plusieurs reprises, elle vient le voir, et puis il lui dit « Si on me lie avec sept cordes fraîches, alors je ne pourrai plus rien faire. » Alors les Philistins le font pendant son sommeil, et puis il éclate toutes les cordes. Et la femme revient, mais tu m'as menti, alors dis-moi quel est le secret de ta force. Alors il dit, si on me lie avec sept cordes neuves, alors je serai comme le reste des hommes. Alors pendant son sommeil, ils lui font la même chose, et quand il se réveille, il se dégage. Alors la femme revient, mais tu m'as menti, alors dis-moi d'où est le secret de ta force. Alors il dit, si on me lie les sept tresses de ma tête, avec si on les tisse ensemble, alors je perdrai toute ma force. Alors, pendant son sommeil, ils lui font cela, et quand Samson se réveille, il a encore de la force. Et puis, finalement, il finit par avouer son vrai secret. Le vrai secret, c'est qu'il ne fallait pas lui raser les cheveux. Il avait les cheveux depuis sa naissance, on ne lui avait jamais coupé les cheveux, et la force lui venait de cela. Alors, il lui avoue, si on me coupait les cheveux, je perdrais ma force. Et il y a un verset, vous voyez, Juges chapitre 16, verset 19, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le texte dit « Elle, c'est-à-dire Delila, l'endormit sur ses genoux et cet homme va tomber dans un profond sommeil. » Et dans ce profond sommeil, il ne réagit plus. Il ne se rend plus compte du danger. Ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Voilà le point clé, c'est que quand vous tombez dans le sommeil spirituel, vous allez perdre votre force. Vous allez perdre votre force. Votre force spirituelle va disparaître. Peut-être vous avez eu des grandes victoires dans le passé, gloire à Dieu, comme Samson, il avait pu vaincre ses ennemis. Mais si aujourd'hui vous laissez le sommeil, comme Delila l'a endormi sur ses genoux, si vous laissez le sommeil vous envahir d'un sommeil profond, eh bien vous allez perdre toutes les bénédictions que vous avez reçues. Et combien de géants sont tombés ? On a vu ensuite cet homme qui s'est réveillé. Samson a dit « Mais je m'en tirerai comme les autres fois », mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins l'ont arrêté et ils l'ont fait tourner la meule jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, puisqu'il est sorti une dernière fois. Mais il a fini sa vie les yeux crevés en tournant la meule, alors qu'il avait une bénédiction de Dieu sur sa vie, il avait une force surnaturelle, mais qu'il a abandonnée par ce sommeil. Il a tout perdu. Et combien sont tombés parce qu'ils n'ont pas vu le sommeil arriver ? Combien ont les yeux crevés en train de tourner la meule parce que, en fait, ils se sont endormis spirituellement. Voyez le danger du sommeil spirituel. Bien, certains sommeillent aussi à l'heure de la prière, comme Pierre, Jacques et Jean. Vous connaissez ce passage à Gethsémané, Jésus est en train de prier juste avant la croix et il demande à trois de ses disciples de venir prier avec lui parce qu'il y a un combat spirituel puissant. Et pendant ce temps de prière, les trois s'endorment. Ils s'endorment au moment de la prière parce que c'est trop dur, parce que c'est difficile de prier finalement. Et Matthieu 26, verset 40, « Il vint vers ses disciples, donc c'est Jésus, qu'il trouva endormi, donc il était censé prier. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Vous voyez que si on veille et qu'on prie, on est quand même gardé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dans leur cas, le sommeil a été le plus fort. Et ils n'ont pas pu prier une heure avec le Seigneur. Mais j'ai remarqué ceci, c'est que pour les choses spirituelles, vous serez souvent fatigué, vous n'aurez pas envie. Mais par contre, si on vous invite à un restaurant, on vous invite à un spectacle, alors là, ça vous donne de l'énergie. Alors que ça devrait être le contraire. Et qu'on devrait être motivé et zélé pour les choses de Dieu, mais là, c'est souvent là qu'on est fatigué et qu'on s'endort. Mais quand on fait les choses du monde, alors là, c'est facile. Pourquoi ? Mais c'est très simple. C'est parce qu'il y a un réel combat spirituel quand vous commencez à faire les choses de Dieu. Donc, il y a des oppositions qui se dressent. Il y a comme l'ennemi qui ne veut pas que vous priez. Mais quand vous voulez faire des activités mondaines, il n'y a pas de problème. Là, vous n'aurez pas de blocage, vous n'aurez pas d'empêchement. Vous serez même poussé à les faire facilement. Donc comprenons dans quel combat nous sommes. Et il faut constamment veiller et prier. C'est le message du Seigneur Jésus lui-même. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc c'est vraiment quelque chose de spirituel, c'est un combat. Paul le dit dans Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Déjà, Paul évoque cette nécessité de rester en éveil spirituel, de ne pas se laisser endormir par le monde et ses plaisirs, mais d'être réveillé pour les choses de Dieu, les réunions, la prière, le culte personnel, avoir une vie dans le Seigneur. Concernant Eutychus, on se rend compte que le sommeil spirituel vous conduira à la mort. Eutychus, qui s'est endormi d'abord au troisième étage, il n'a pas vu le sommeil venir, il s'est endormi profondément et il est tombé du troisième étage et il est mort. Il s'est peut-être réveillé pendant sa chute, mais c'était trop tard. Il ne pouvait plus rien faire. Et la mort spirituelle, c'est ça. Et Jésus en parle en disant, mais qui sera réveillé lors de mon retour ? Dans Marc chapitre 13, verset 35. Il dit, veillez donc, vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, c'est-à-dire, il parle du retour du Jésus, du Seigneur, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc déjà, le Seigneur nous avertit qu'il ne faudra pas être endormi le jour où il reviendra. Parce que si nous dormons le jour où il reviendra, ça veut dire que nous ne serons pas pris dans sa présence, que nous serons perdus, nous aurons lâché la main du Seigneur. Donc ceux qui seront endormis seront perdus. C'est pourquoi il dit « craignez qu'il ne vous trouve endormi ». Non, il ne faudra pas dormir ce jour-là, il faudra être bien réveillé. Alors nous devons lutter chaque jour contre le sommeil spirituel et un petit peu faire nos exercices. Alors il y a les exercices physiques, hein, on fait le marathon, on fait de la course, on entretient le corps, c'est très bien. Et puis Paul dit qu'il y a des exercices spirituels qui sont encore plus importants. 1 Timothée 4:8, exerce-toi à la piété, donc ce sont des exercices spirituels. Exerce-toi à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, à méditer les Écritures, car l'exercice corporel c'est utile à peu de choses, tandis que la piété c'est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle à venir. Il n'y a que ceux qui sont dans la piété, dans la foi, qui auront accès à la vie éternelle. C'est pour ça, ne laissez pas le sommeil vous envahir. Le troisième élément, c'est la résurrection de Tychus. Car Paul avait une foi hors du commun. Lorsqu'il a vu Eutychus qui était tombé par terre, mort, il le prend dans ses bras et il s'attend à Dieu encore pour un miracle dans sa vie. C'est pas commun, une foi pareille, mais c'est quand même quelque chose pour montrer qu'il était très proche du Seigneur. La foi était indispensable pour la résurrection. Paul croyait que Dieu est le Dieu du miracle, le Dieu qui ressuscite les morts. Si Paul n'avait pas cru, si les disciples n'avaient pas cru, si personne n'avait cru, bien cet Eutychus serait resté mort. Mais Eutychus, qui lui ne pouvait rien faire, a bénéficié d'une résurrection parce que d'autres se sont associés dans la prière et ont prié pour qu'ils sortent de la mort. Alors, c'est ça, ce que Dieu nous invite à faire, c'est de prier pour ceux qui sont morts spirituellement, qui sont éloignés de Dieu, peut-être c'est votre enfant, c'est un collègue de travail, ils ne sont pas dans le Seigneur, ils ne connaissent pas les choses de Dieu, eh bien, priez pour une résurrection spirituelle, que Dieu touche leur cœur. Dieu est encore capable de sauver aujourd'hui, de communiquer la vie à ce qui est mort. Eutychus était mort, il n'y avait plus rien pour lui. Mais Dieu redonne de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Dieu donne des promesses, même quand les choses sont mortes. Et vous pensez que ce n'est pas possible, que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, les disciples peut-être se disaient, ben ça y est, il est mort, il faut préparer son enterrement. Donc on peut avoir une optique de se dire, c'est terminé, on n'y arrivera pas. Mais Paul a choisi le chemin de la foi, il a une conviction, parce que ce n'est pas commun une résurrection. Il a cru dans son cœur et il s'est attendu à la grâce de Dieu. Maintenant, quand Dieu donne une promesse, la réalisation de la promesse lui appartient. Et ça, il faut juste patienter que Dieu va donner la vie quand il le décide. Mais, en tout cas, nous pouvons croire que Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort spirituellement, qui est perdu. Eh bien, il y aura le temps de Dieu, mais prions dans la foi que le Seigneur agisse. Je termine avec la consolation, c'est le quatrième point. C'est Eutychus qui est ramené vivant dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Et ils ont tous loué le Seigneur et ils ont été consolés. Frères et sœurs, il y aura des moments d'épreuve où nous allons pleurer. C'est la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Mais la Bible dit que nous passons par la vallée de Baca, mais nous n'y habitons pas, nous ne demeurons pas dans cette vallée, parce qu'il y a un temps de consolation. Et le Seigneur va consoler nos cœurs blessés, nos cœurs brisés. C'est-à-dire qu'il va redonner un avenir. Pour Eutychus, il n'y avait plus d'avenir, c'était terminé ce jour-là. Mais Dieu lui a redonné un nouvel avenir. Il était mort et il est ressuscité. Dans le temps de l'épreuve, eh bien on va pleurer, on va souffrir, mais arrive le temps de la consolation et Dieu arrive avec sa solution, avec ses bénédictions. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont amenées, qui sont touchées dans leur vie, qui sont... Peut-être à un point où ils se disent « Pour moi, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien devant, vous avez été rejeté par vos amis, vos collègues, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous cherchez la consolation, personne ne vous comprend. » J'ai pensé à ce texte de 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. » Vous voyez, toute consolation, donc. Il peut consoler toute personne, qui nous console dans toutes nos afflictions. Il n'y a pas de difficulté qui soit trop grande pour le Seigneur. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Cette consolation va produire des bénédictions dans votre vie. On va prier quelques instants. Comme les premiers chrétiens, nous devons ce matin réaliser l'importance du culte que nous devons rendre à Dieu. Les rassemblements, l'Église réunie, il y a une réelle bénédiction. Et moi, je ne veux pas négliger aucun culte. Je veux être fidèle, je veux être présent dans la présence de Dieu pour honorer Dieu. J'ai compris que c'est des rendez-vous avec Dieu. Veillons à ne pas laisser le sommeil spirituel nous envahir. On a vu le piège pour Eutychus. Il ne l'a pas vu venir, mais il a négligé, il s'est écarté, il a fait des mauvais choix. Veillons et prions comme Jésus nous le demande. Veillons les uns sur les autres, exhortons-nous à la charité, à l'amour, consolons-nous les uns les autres et attendons-nous encore à des résurrections. Il y a des morts spirituelles, eh bien, il va y avoir des résurrections, il va y avoir des personnes sauvées encore. L'œuvre de Dieu va être faite. Merci encore pour ta parole. Tu es le Dieu de la vie et de la victoire. Et c'est avec foi que nous venons à tes pieds, Seigneur, en déposant tout fardeau, tout souci, en croyant, Seigneur, que tu vas agir dans les situations aujourd'hui où tout semble bloqué, perdu, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, ce matin, nous nous attendons au Dieu qui crée des possibilités nouvelles, qui donne la vie là où il y a la mort, qui ressuscite même ce qui est mort en nous et qui nous donne, Seigneur, une nouvelle vision, un nouvel avenir. Comme pour Eutychus, c'était un nouveau départ dans sa vie. C'était comme une nouvelle vie. Eh bien, Seigneur, tu veux le faire pour chacun de nous. Lorsque nous sommes acculés, lorsque nous sommes dans des moments de découragement ou de défaite, d'abattement, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi, continuer à veiller, continuer à prier, continuer à garder cet éveil spirituel pour ne pas sombrer dans le sommeil. Ô Seigneur, garde-nous de ce sommeil. Seigneur, nous voulons être vigilants, être toujours attentifs à ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.